championship has been purified. Dear wrestlers, we have won. Ring of Honor is now pure.
Oh, kick, coup de la corde à linge. Oh, oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti.
John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion.
But I know you people don't understand what kata nai taro.
Cette superbe envoi par la insulte à troisième corps de son camp.
Philippe, parce que ça va vite, ça va.
Cette fois-ci, on est là tous les deux.
Oh oui.
Roman Reigns qui est passé
par la insulte à troisième corps.
Mais c'est pas tout, on avait dit.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du KatchaCast. On y est bien, on est à l'approche des fêtes, le sapin est peut-être déjà prêt chez vous, en tout cas c'est le cas chez moi, mais moi qui suis-je, d'où viens-je? C'est moi, c'est Mehdi du KatchaCast et de tout l'univers d'ailleurs, aime le Mehdi, on vous invite à aller voir. Non, ce titre d'émission n'est pas une blague, hein, c'est l'univers des émissions en tout genre, jeux vidéo et compagnie, mais aujourd'hui on vous parle pas de jeux vidéo, on est au KatchaCast, donc on vous parle de catch et on va vous parler d'une fédération forte en goût et en couleur, la ROH pour Ring of Honor, donc Ring de l'honneur. Et pour ce faire, je vais avoir notre spécialiste, notre envoyé spécial. Et oui, je ne vous entends pas très bien. Il s'agit de Félix. Salut Félix.
Mais oui, bonjour Mehdi. Je suis en direct du canapé à 10 cm de votre visage. C'est moi Félix. Salut, salut.
Et on va, pour être totalement, comme on l'est souvent avec vous, transparent, c'est surtout Félix qui a un gros savoir-faire, une grosse connaissance de la Ring of Honor, enfin en tout cas plus que moi, et qui m'a vachement bien aiguillé pour préparer cette émission-là. Alors je suis pas complètement vierge, comme qui dirait, de la Ring of Honor, parce que j'y suis venu et je vous expliquerai comment, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de ça pour que vous voyez à la fois mon rapport à la Ring of Honor et peut-être qui a été le vôtre. Et si vous ne connaissez pas du tout, bah, comme d'habitude au KatchaCast, hein, le but c'est de vous amener vers ça et au mieux de vous faire découvrir effectivement toute la fédération, au minimum de vous faire découvrir des matchs emblématiques qui vont enrichir votre culture catchesque. On va commencer, je pense, peut-être par quelques petits repérages historiques de concepts de la Ring of Honor, d'où ça vient ou quoi ou qu'est-ce. Et puis après, je donnerai modestement mon opinion de quelle image j'avais de la Ring of Honor, Félix.
Donc déjà, on va peut-être commencer en préambule. Pourquoi on en parle de la Ring of Honor? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est important d'en parler? Et pourquoi elle est un peu dans l'actualité catchesque aussi, parce qu'il n'y a pas seulement des néophytes qui nous écoutent, il y a aussi des fans, donc voilà, ils ont peut-être au moins croisé le nom de la Ring of Honor quelque part sur les sites ou sur Twitter. Et donc en fait, le fin octobre, la Ring of Honor, qui est une promotion de catch donc américaine, qui est là depuis presque 20 ans, a annoncé que du fait de la pandémie de Covid-19, du fait de son inactivité pendant 18 mois à peu près, en tout cas au niveau des shows avec du public, hein, parce qu'elle a été vraiment inactive pendant 6-7 mois je crois, et ensuite elle a repris les shows mais sans public, donc sans thunes, voilà, hein, parce qu'il n'y a personne pour payer les billets, donc voilà. Donc elle a annoncé fin octobre qu'elle allait s'arrêter, en tout cas se mettre en pause, au moins jusqu'à avril 2022, parce que il y a le WrestleMania Weekend, WrestleMania 38 au Texas, et qu'en général c'est l'occasion pour toutes les promotions de moindre ampleur que la WWE, de se rassembler dans un même lieu, de profiter de tout ce tourisme, en gros, de tous ces fans qui sont là avec leurs billets prêts à être dépensés. Voilà, et donc pour réorganiser un super Card of Honor, c'est leur show en général d'avril pour ce moment-là. Mais rien n'est dit parce que voilà, l'idée c'est à la fois de, entre guillemets, réconceptualiser l'entreprise. Et ça veut dire ne plus avoir de catcheurs à plein temps, de catcheurs et catcheuses à plein temps, de plus avoir de contrats d'exclusivité à payer, idem pour le staff, hein, et donc de repartir sur des bases vraiment primitives, on va dire, d'organiser des événements comme ça au compte-gouttes, de payer les gens un peu au compte-gouttes, un peu comme la, pour ceux qui connaissent la PWG par exemple, ou la Game Changer Wrestling aussi, voilà, dont on reparlera plus tard. Et donc l'idée c'est, à partir de mi-décembre, de ne plus faire de show de catch. Donc là c'était le dernier show Final Battle, leur pay-per-view Final Battle de fin d'année. Et ensuite, soit tu as un contrat avec la Ring of Honor qui se poursuit sur les mois qui suivent et tu peux rester sous contrat et continuer à être payé comme c'était prévu, soit tu choisis par exemple pour certains catcheurs qui veulent gagner un peu plus d'argent et continuer à catcher, d'arrêter le contrat et d'aller catcher ailleurs. Et puis fin mars 2022, plus personne n'est sous contrat avec la Ring of Honor et a priori on reprend avec le nouveau concept de engager des catcheurs au compte-gouttes, etc. Donc ça c'est la raison pour laquelle on enregistre cette émission, parce que pour beaucoup de fans, pour beaucoup de spécialistes et même pour beaucoup d'employés de la Ring of Honor, c'est un peu la fin. Parce que rien n'est dit sur est-ce que dans 6 mois on va vraiment recommencer, est-ce qu'elle va vraiment reprendre, est-ce que dans 6 mois tous les catcheurs de la Ring of Honor seront pas déjà ailleurs, est-ce que dans 6 mois quelqu'un aura proposé de racheter carrément la Ring of Honor, parce qu'il faut savoir que la Ring of Honor elle appartient à un groupe médiatique américain qui s'appelle Sinclair Broadcasting, et qui a énormément de dettes du fait de la pandémie. Alors la petite histoire, la raison pour laquelle la Ring of Honor est un peu le dommage collatéral des dettes de SBG Group, du coup, c'est que juste avant donc le début de la pandémie, début 2020, SBG avait racheté des chaînes sportives. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui a plein de petites chaînes aux États-Unis, ça s'appelle des syndications, c'est plein de petites chaînes régionales, et la Ring of Honor est diffusée comme ça. C'est pas comme l'AEW ou la WWE où ils sont diffusés nationalement sur des chaînes qui diffusent partout aux États-Unis, ou dans le monde d'ailleurs. Et donc, ils avaient racheté des chaînes sportives et ils avaient beaucoup investi dans ces chaînes pour rapporter de l'argent ensuite au niveau de la pub, enfin, un boulot de TV quoi. Sauf que toutes les ligues sportives se sont arrêtées. Donc tout cet investissement n'a pas pu être remboursé et donc forcément fallait sacrifier des filiales en gros. Et la Ring of Honor est une des filiales de ce groupe, donc elle est un peu sacrifiée. Voilà, je sais pas ce que... Est-ce que tu avais suivi un peu cette news? Qu'est-ce que tu en avais pensé à ce moment-là? Est-ce que ça t'avait choqué ou pas?
Alors oui et non, parce que disons qu'il y avait... J'ai eu l'impression, même si la Ring of Honor aussi, on y reviendra un peu après, a été capable du meilleur comme du pire, notamment dans son rapport aux athlètes, mais je crois que c'est prévu qu'on en parle un peu plus en avant dans l'émission. Mais au moins, ça a eu le mérite d'être dit, de pas vendre finalement trop de rêves et d'illusions inutiles. Après, ce qui m'a fait... Oui, j'ai suivi. Ce qui m'a fait mal à la tronche, et j'ai suivi d'ailleurs grâce à The Alternative, un petit site groupe confidentiel sur Facebook d'un certain Félix, hein, ici présent. Et en... Ouais, rip. Mes blagues à part, disons que ça m'a fait un petit pincement, comme beaucoup de monde, d'une précarisation. Enfin, il y a eu un effet yo-yo entre le confinement, les effets que ça a pu faire, à part sur les très gros groupes comme la AEW et leurs partenaires télévisuels et l'empire WWE, et la sortie progressive qui finalement nous fait revenir à une précarité, aux effets complètement actés et pas épongés de l'indé du confinement, de la pandémie. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, le début de fuite, non pas des capitaux ni des cerveaux, mais des athlètes. Hein. On a eu Jay Lethal qui est venu pour un match contre Sammy Guevara à la AEW. Donc ça commence déjà. Je pense que les gens posent un petit peu leur bille pour essayer de voir la suite. On va essayer de s'interroger aussi sur comment, pourquoi, comment et qu'est-ce. Mais avant ça, on a encore beaucoup de choses à dire et un joli programme, hein, comme on le disait, concocté par Félix qui va continuer de tracer la route.
Alors juste petite précision, donc ouais, The Alt Wrestling, donc je disais Rest in Peace parce que le site est Rest in Peace, mais il y a toujours le Facebook, hein. Majoritairement son existence maintenant, donc c'est des actualités tous les jours dans le monde du catch. Non, j'essaie de moins spoiler quand même, hein, on apprend de ses erreurs, hein, voilà. Des petits mèmes, voilà, de droite à gauche si ça vous tente. Maintenant qu'on a un peu placé le contexte, avant de repartir sur Final Battle et cet événement-là qui marquera peut-être, on ne sait pas, la fin de la Ring of Honor. La Ring of Honor, donc, ça commence par trois gars qui décident donc de changer un peu les choses dans le catch américain. Parce qu'en 2002, donc, pour rappel, il ne reste en gros aux États-Unis que la WWE qui règne en maître. Car sa concurrence, elle l'a racheté, hein, la WCW et la ECW aussi, elle a tout phagocyté et donc elle a laissé un peu le circuit américain pas en ruine, mais parce que c'était pas forcément de son fait, mais bon, la guerre est passée, quoi, et donc ne reste que dans comme option pour les petits catcheurs indépendants, des trucs comme la CZW, la XPW qu'on a vu dans Dark Side of the Ring. Je sais pas si tu as vu ça, hein. C'est une promotion à la fois de catch et à la fois de pornographie. Ouais. Voilà, c'est quelque chose. Ce genre de promotion là. Et donc,
après, pour précision par rapport à ça, au lieu de rire en mode teubé comme un ado, il y a toujours eu des liens parfois un peu ténus entre l'industrie du porno et le catch, pas régulier, mais entre autres exemples, il y a eu China, malheureusement, avec sa fin de carrière assez particulière, et puis de toute façon qui était globalement en grande souffrance, hein, sans être dans le cliché, je pense. Il y a un chouette documentaire d'ailleurs sur sa vie. Je me demande si c'est pas encore notre ami
Joseph Montesillo.
Non, l'autre dont j'oublie tout le temps le nom. C'est affreux. Il y en a deux, il y a Joseph Montesillo et c'est pas Johnson son nom de famille, non.
Kenny Johnson.
Kenny Johnson, voilà, qui a fait une vidéo dessus. Mais bref, on vous mettra les liens si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas malheureusement le destin tragique de l'incroyable China.
Oui, et puis en plus, la WWE aussi a participé un peu à ça. Enfin, en tout cas, tout ce qui est érotique, par exemple, parce que fut un temps, la consécration pour une diva, entre guillemets, pour une catcheuse, c'était d'être la couverture de Playboy. Donc, bon, voilà, c'était pas si loin, effectivement. Donc, voilà, c'était dans cet univers-là que la Ring of Honor est née, donc de trois gars, comme je disais. Donc, il y avait. Le vrai fondateur entre guillemets, c'est Rob Feinstein. C'est un gars qui avait une entreprise de vidéos. Voilà, il faisait des VHS et des DVD majoritairement de catch. Son fonds de commerce était de vendre les shows de la ECW en vidéo avec sa boîte RF Vidéo. Il y avait ensuite Gabe Sapolsky qui était en gros le disciple, le padawan de Paul Heyman, donc le patron de la ECW. Donc là c'était plutôt le côté créatif, le côté agent aussi un peu, je vais recruter des catcheurs, je vais les booker, voilà, je vais les mettre en scène, etc. Et puis le troisième larron, c'est Kari Silkin, donc c'est un entrepreneur, je sais pas exactement ce qu'il faisait avant. C'est un peu celui qui mettait l'argent, quoi. C'était l'investisseur. Mais en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'en fait, dans sa jeunesse en tout cas, il était dealer de coke. Et qu'il a notamment... Non mais... Et il a notamment dealé de la coke à John Belushi. Voilà.
Voilà, le trivia.
Voilà. Et donc, la Ring of Honor naît de ce constat, à la fois de RF Vidéo qui n'a plus de contenu premium à vendre à ses clients, et à la fois le fait que voilà, le catch indépendant regorge, mine de rien, de catcheurs de jeunes pousses, mais qui ne sont mis en scène que dans des trucs qui ressemblent à de la Attitude Era, avec toujours ces mêmes personnages un peu graveleux, etc. Ou alors à de la ECW, donc du catch hardcore, parce que voilà, c'est ce qui marquait aussi les esprits à ce moment-là. Et donc de faire quelque chose de différent, de faire du, un peu du catch japonais, mais à l'américaine, en gros. Parce que ça, c'est chez les fans hardcore de catch de l'époque, c'est ce qui marchait énormément. C'était voilà, il y a plein de catcheurs qui en parlent, notamment Eddie Kingston qui parle de tape trading, ça veut dire échanger des cassettes. Tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir dessus, mais tu t'espères vraiment qu'il y a ce match avec Kobashi et Misawa sur la cassette que t'attends de voir depuis des lustres, machin. C'était le seul moyen. Il y avait pas vraiment, il y avait Internet, mais c'était pas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà. Et donc commençaient aussi des mécaniques de tournois où il y a vraiment des talents qui popaient comme ça. Bryan Danielson, Samoa Joe, Christopher Daniels, CM Punk évidemment, qui avait déjà un gros nom sur la côte est. Et donc c'est, l'idée c'est de rassembler tout ce monde là et de faire du catch vraiment, genre comme on en voit à la EW en gros maintenant. De faire des longs matchs avec de la technique, avec et de baser le booking, donc toute la narration de la promotion, sur le catch lui-même, pas sur des personnages, pas sur des histoires de je t'ai trompé ou je t'ai trahi machin. Non, c'est d'abord c'est du catch quoi.
Alors c'est marrant à pas mal d'égards ce que tu dis, parce que d'une part, quand tu disais tout à l'heure pour le côté un petit peu comment dire, un peu on y va en termes catchesque, moi j'ai toujours eu cette sensation avant de vraiment me, je l'expliquerai tout à l'heure quel a été mon contact, premier contact avec la ROH, mais il y avait toujours cette image pour moi que je vais résumer dans le titre d'une chanson qui est une parodie de Weird Al Yankovic, Young, Dumb and Ugly, donc jeune, débile et affreux. Est-ce qu'il y a ce côté hyper crasseux en fait, moi, l'image de la ROH, que ça soit effectivement dans le blading ou même très souvent plus ces ouvertures naturellement faites, parce que ça y allait, hein, on va en parler effectivement sur certaines rivalités un peu plus tard. Et donc ouais, voilà, il y avait ce côté crasseux, ce côté un petit peu dans l'ère MTV, mais même s'il s'en affranchissait pas mal. Et comme tu disais très bien, un storytelling de catch qui ne se fait que sur le ring et ses abords. Donc il n'y avait pas beaucoup de blabla, il y avait des instants mic, mais ça restait quand même très très concentré sur l'intensité globale de l'action et du storytelling. Donc il y a ça d'une part, et dans ce que tu dis par rapport à la AEW, ça crève les yeux. Alors, effectivement, on vous invite, si vous ne connaissiez vraiment pas la ROH, c'est le but de cette émission, à comparer, vous verrez, la filiation, ça crève les yeux. Autant la PWG, c'est encore un autre délire dans ce côté très fantasque, cours de récré et compagnie. La ROH, c'est vraiment une base de l'ADN évidente. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est pas anodin, parce qu'il y a certains noms qui devraient vous dire quelque chose un peu plus tard. Teasing, si vous ne les connaissez pas déjà, que vous n'avez pas déjà deviné.
Ouais, pour rebondir sur le côté crasseux, ouais, c'est pas tellement crasseux dans, comme je disais, avec la ECW ou les storylines à la WWE, très ado mais vulgaire, voilà. C'est plus toute la production, toute la présentation fait un peu crasseux, parce que t'es dans des salles toute petite, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, ou alors elle est hyper saturée, pareil pour les bruits, enfin tout ce qui est production, c'était pas la joie. Il y a quelqu'un, un journaliste canadien que je suis beaucoup, qui s'appelle John Pollock, qui disait que pour lui la Ring of Honor c'était une œuvre d'art vue de loin, mais quand tu t'en approchais, c'était un truc qui était tenu avec du chewing-gum et puis du scotch, quoi. Mais en même temps, ce qui était dans le ring, c'était une œuvre d'art, quoi. Et c'était ça le but, je pense, de la Ring of Honor, c'était de présenter, avec les moyens du bord, un catch de haut niveau, un catch premium, quoi.
Du champagne dans un gobelet en plastique, quoi. Mais c'est, non, c'était vraiment ça. Et quand je disais crasseux, j'ai quand même précisé un petit peu, je vise plus les années 2000 bien entamées, voire 2010, parce que je pense à des alors il y a un nom d'un duo qui m'échappe, mais celui dont je me souviens, c'est vraiment les Briscoes, avec ce côté effectivement vraiment vraiment cracra involontairement dans leur personnage. Et l'autre duo, c'est il y en a un qui est avec un type vachement ouais en surpoids voire obèse, et qui s'enquille des bières,
c'est les Beer City Bruisers.
Merci beaucoup. Donc voilà, le nom m'échappait, mais voilà, c'est ce genre de personnage-là auquel je pense quand je dis crasseux. Donc c'est peut-être un peu plus éloigné dans le début de l'histoire, qui elle va commencer vraiment en tout début 2000.
Et donc, la Ring of Honor, au début, voilà, faut le savoir, c'est une promotion qui fait pas d'argent, quoi. Enfin, il y a que Kari Silkin et puis donc Rob Feinstein qui met un peu d'argent dedans, mais c'est pas une promotion qui fait du profit, quoi. Et pendant très longtemps, elle ne fera pas de profit. Et justement, elle a eu une histoire un peu difficile au début parce qu'en 2004, donc son principal fondateur, donc Rob Feinstein, il est complètement écarté de la compagnie après une affaire de pédophilie. On soupçonne qu'il a des contacts avec des jeunes sur Internet, avec des échanges d'images pédopornographiques, etc. Et donc, il me semble que c'est un flic qui se fait passer pour un jeune, qui lui donne rendez-vous chez lui et tout ça. Et dès qu'il arrive donc à la maison du jeune en question, il est arrêté par la police et voilà. Donc c'est un gros coup dur pour la compagnie, mais en même temps c'est quelqu'un de néfaste, hein, voilà. Donc on l'écarte et donc Kari Silkin va vraiment prendre la direction du truc et Gabe Sapolsky aussi qui va vraiment mettre toute son ingéniosité, toute son âme, ouais, dans la Ring of Honor. Et après on a des très belles années, hein. 2004 c'est l'année où on a la trilogie CM Punk, Samoa Joe, c'est là où on va avoir toute l'émergence de Bryan Danielson ensuite, c'est là où on va avoir les premiers shows d'envergure, genre Hammerstein Ballroom, hein, c'était une salle mythique que la ECW à la fin de sa vie fréquentait souvent. C'était un achievement entre guillemets pour une promotion de catch indépendant. C'est là où on a en 2006 par exemple, on a le premier show de Super Card of Honor, donc le premier show en satellite de WrestleMania. Et c'est un peu la Ring of Honor avec ce show là qui va créer le concept de WrestleMania Weekend. Personne avant n'avait eu l'idée de se dire ouais, on va se mettre à côté de là où a lieu WrestleMania et puis on va en faire quelque chose, on va en profiter, quoi. Et maintenant c'est un vrai festival, quoi. C'est limite ça, c'est un festival de catch maintenant WrestleMania grâce à ce délire de WrestleMania Weekend, où on fait notre show en même temps que WrestleMania, quoi.
Si vous voulez vous représenter, ça vaut ce que ça vaut, mais pensez par exemple au festival de musique ou de théâtre, comme par exemple le festival d'Avignon, où vous avez vraiment ce qu'on appelle le in et le off, donc vous avez les trucs vraiment principaux, classiques, avec des grandes têtes d'affiches, de théâtreux, et puis vous avez le off qui est plus indé, plus marginal, ceux qui vont le plus principalement tracter en fait dans les rues, donc il y a un peu quelque chose de ce genre d'émulation-là.
Et donc la Ring of Honor, c'est toujours une compagnie qui est en avance, j'ai envie de dire, au niveau catch, mais au niveau business, elle est hyper en retard. C'est-à-dire que au niveau pay-per-view, par exemple, elle va faire un premier pay-per-view qu'en 2007, donc 5 ans après ses débuts. En plus, c'est un pay-per-view qui est enregistré, qui n'est même pas en direct. En 2008, son booker un peu phare, donc Gabe Sapolsky, va être dégagé. Juste parce que il y avait un besoin, soi-disant, de chambouler un peu le booking, alors que bon, voilà, ça marchait très bien. Il est remplacé par Adam Pearce, pour ceux qui suivent SmackDown, ils connaissent le nom. Et puis, il sera remplacé par Jim Cornette aussi. Donc, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de très terre-à-terre, Jim Cornette, très old school. Et donc, en 2009... Première diffusion à la télé, là aussi c'est très en retard, c'est sur une chaîne de télé que personne n'avait aux États-Unis, c'est HDNet, qui sera la future Access TV, qui est maintenant le diffuseur d'Impact Wrestling, pour ceux qui connaissent aussi, et elle va être diffusée là-dessus pendant 2 ans, mais elle va faire aucun profit. Bon, on vous parle souvent, pour ceux qui connaissent, des audiences TV, des droits, du fait que la WWE elle gagne 250 millions d'euros par an, x2, grâce à ses droits à la télévision. La Ring of Honor, elle n'avait rien du tout. Elle était juste diffusée comme ça, à la limite elle payait pour être diffusée. Et donc en 2011, Kari Silkin arrive à faire un deal avec donc, le groupe dont on vous parlait plus tôt, SBG, pour racheter la Ring of Honor. Et donc elle va être diffusée sur les chaînes régionales de SBG, et elle va commencer à faire des vrais pay-per-view, enfin des e-pay-per-view, donc des internet pay-per-view, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de plateforme de streaming, voilà, c'était le début des années 2010, donc voilà. Et là je vais être un peu plus perso, parce que c'est à ce moment-là où moi j'ai découvert la Ring of Honor. C'est en 2011, donc où CM Punk fait sa fameuse promo. Faudrait écouter notre podcast sur CM Punk pour en savoir plus, mais où il fait sa fameuse promo, shoot promo, pipe bomb, comme on dit, où il parle de la Ring of Honor. Où il dit ouais, si je gagne le titre WWE, moi je pourrais revenir à la Ring of Honor, le défendre et tout. Donc moi je dis qu'est-ce que c'est que ça, la Ring of Honor? Moi j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu quelques matchs par-ci par-là, notamment de Tyler Black, donc le futur Seth Rollins. Et donc là je me suis dit bon, je vais quand même m'y mettre, et je tombe sur Best in the World 2011, donc l'un de leurs pay-per-view, et j'ai trouvé ça génial quoi. C'était un truc que j'avais jamais vu, dans une ambiance hyper bruyante avec des fans hyper à fond qui tapaient sur les barricades, qui était assez fou. Pour moi c'était moi qui fantasmais sur la ECW. Enfin voilà, je me disais en tant que fan, j'aurais kiffé être fan à cette époque-là. C'était un peu la même ambiance, quoi. Je retrouvais cette ambiance-là, mais en plus avec un catch d'un niveau que j'avais jamais vu, quoi, à l'époque. Et c'est comme ça que je m'y suis mis à la Ring of Honor, et je l'ai suivi religieusement. Et puis évidemment, j'ai rattrapé mon retard en regardant des matchs et des rivalités emblématiques de l'époque. Et donc voilà, la Ring of Honor va faire son chemin sur cette base-là pendant plusieurs années. Et puis surtout, ce qui va marquer son histoire ensuite, c'est son alliance avec la New Japan Pro Wrestling. Donc la compagnie japonaise dont on vous parle très souvent sur le Catchacast. Parce qu'elle a toujours eu des alliances, du fait de ses origines, du fait de ses inspirations avec le catch japonais, elle a toujours voulu être la promotion qui arrive à ramener le catch japonais aux États-Unis. Que ce soit la Dragon Gate, que ce soit la Noah avec Kenta par exemple. Et là donc elle arrive à la New Japan, voulant elle-même de son propre fait investir un peu les États-Unis, elle va s'allier avec elle et lui dire ok, on va te donner une place, en plus toi t'es connu pour ton catch fabuleux, nous aussi on est connu pour notre catch fabuleux, et cette alliance va se faire et va ramener du beau monde d'ailleurs, donc des Okada, des Tanahashi, des Naito, qui vont se confronter avec les stars de la Ring of Honor, que ce soit Kevin Steen, donc pas encore Kevin Owens, Adam Cole, El Generico, oui voilà. Et toi c'est à ce moment là où tu découvres la Ring of Honor, je crois.
Je revérifie en t'écoutant religieusement. Moi c'est précisément dans les années 2010-2011, et ça coïncide avec ce qui m'a redonné l'envie de me remettre très sérieusement au catch, c'est Daniel Bryan. On y reviendra après, qui venait de signer justement entre fin 2009 et 2010 à la WWE. Et moi, la démarche, elle était vachement simple, et c'est intéressant de voir comment ça s'est articulé. C'est que je me disais, mais en fait, ces catcheurs-là, on en a cité deux autres juste avant, trois même, si on compte Tyler Black et qui est Seth Rollins aujourd'hui, c'est de me dire, mais en réalité, ils viennent d'où ? Comment est-ce qu'ils se sont faits, quelle était leur position. Et donc c'est le moment où j'ai commencé à plus simplement, quand je le faisais plus jeune, à regarder les shows à la télé ou vaguement sur internet, mais à me dire voilà, j'ai cette volonté qui amènera, le reste a été écrit par l'histoire, à la création du Catchacast et en gros de me dire bah voilà, ça vient d'où, quel est leur parcours. Et donc il y a eu l'incroyable rivalité, on y reviendra peut-être à un moment donné, Kevin Steen et El Generico, donc comme on disait, Kevin Owens et Sami Zayn aujourd'hui, Tyler Black, j'ai un petit peu moins suivi, mais d'incroyables matchs aussi à l'époque, même s'ils sont loin d'être mauvais aujourd'hui à la WWE. Mais c'est toujours cette question aussi, cette euphorie de voir que par rapport à la WWE, il y avait une dimension très bridée aussi. Alors c'est évident pour la plupart des gens qui suivent le catch, mais quand on le voit à l'époque et qu'on découvre à rebours, qu'on les a pas suivis depuis les fédérations indépendantes, on se dit mais merde, en fait ils font des trucs de maboule, pourquoi ils font pas ça à la WWE. Et on comprend évidemment toute la gestion de la WWE, la priorité à faire en sorte qu'ils se blessent pas, etc., etc. Enfin il y a plein d'enjeux de ce type là. Et puis on y reviendra un peu après, peut-être tu as commencé à creuser le sillon avec le partenariat avec la NJPW, mais aussi un autre groupe très fort, et c'est celui-ci, j'espère que je vais pas trop vite dans le déroulé, de toute façon on recroisera tout ça. C'est évidemment un groupe qui est très cher à mon cœur, même sous d'autres formes aujourd'hui, plus sa faction on va dire Jay White qu'autre chose, c'est le Bullet Club, et notamment un autre sous-groupe qui va se dessinée, donc The Elite, avec entre autres hein, les Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes et à l'époque Skrull, Adam Page aussi, on va pas l'oublier, surtout vu son importance en ce moment à la AEW. Et voilà, et de me dire, punaise, en fait, il y a tout ça qui s'interconnecte, donc c'est vachement intéressant, super chouette. Adam Cole aussi, évidemment, et donc. À cette époque-là, j'avais une boulimie NJPW et je me disais, bah, tiens, ça vient d'où bah voilà, je veux savoir Adam Cole, pourquoi est-ce qu'il atterrit là et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que les gens reconnecteront s'ils connaissent et s'ils ne connaissent pas de ce que j'ai dit. En plus d'AROH, vous avez plein de récaps NJPW qui sont assez bien foutus sur les histoires de factions, dont le Bullet Club, donc ça vous permettra de reconnecter les morceaux. Mais voilà, effectivement, un rapport qui m'a permis de découvrir des matchs dont j'ignorais l'existence jusque-là.
Et pour moi, en fait, c'est un peu paradoxal, mais pour moi, en fait, c'est le début de la fin, déjà. Si on doit déjà faire un peu la nécrologie anticipée de la Ring of Honor, c'est un peu tristounet, mais c'est un peu la réalité de la chose aujourd'hui. Pour moi, c'est le début de la fin parce qu'en fait, elle va se focaliser que sur ça. Alors qu'elle s'est fait connaître par justement des matchs d'exception avec des catcheurs qu'on voyait pas ailleurs parce qu'ils étaient sur le circuit indépendant, etc. Là, c'est juste voilà le tremplin de la New Japan aux États-Unis et très vite la New Japan elle va avoir son New Japan World et elle va se débrouiller très bien toute seule. Et en même temps, il y a ce côté on se fait piquer un peu tous nos talents par la WWE parce ouais. que pendant toutes les années 2000, la WWE, elle ne cherche pas ce genre de talent-là. Elle est sur ce qu'elle fait maintenant, en fait. C'est-à-dire, on va recruter des athlètes ou on va recruter voilà, des anciens footballeurs ou ce genre de choses. Enfin, ce genre de personnes, plutôt, pardon. Et on va les modeler. Alors que au début d'année 2010, les choses changent à la WWE. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un personnage qu'on connaît tous qui s'appelle Triple H qui va prendre beaucoup plus de poids et d'influence, qui va créer NXT sur la base de la FCW. Donc c'était une promotion filiale de la WWE qui formait ses catcheurs et qui va un peu changer le mode de recrutement, les profils de recrutement et qui va commencer à piocher dans le circuit indépendant et puis à l'international. Au Japon, voilà, Kenta par exemple va devenir Hideo Itami, Prince David à la New Japan va devenir Finn Balor, Kevin Steen, Kevin Owens, El Generico va perdre son masque, il va devenir Sami Zayn.
Mais même sans ça, dans la faction main roster, on a pour moi un des trucs symboliquement les plus forts, c'est AJ Styles, évidemment, qui va arriver, ça va marquer. Mais vraiment pour compléter, je te relaisse la parole juste après, mais je pense qu'il y a, tu parlais effectivement des cassettes qui circulaient sous le manteau, peut-être qu'il y a une autre réalité, c'est que la diffusion des infos, notamment des vidéos, si tu veux faire et des appareils qui permettaient de le faire aussi, même en toute discrétion, était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que maintenant, tu voulais envoyer un espion WWE qui fait du scouting l'air de rien. Il passe, il prend à l'époque, bon, on n'en est pas encore à du format vidéo assez démocratisé, quoique 2010, je sais pas, ça commence quand même à bien se préciser. On fait des vidéos cracra qui peuvent à peu près donner l'idée et voilà, je pense que ça rejoint ce que tu disais sur la façon de repérer et que l'AROH, je suis tout à fait d'accord avec toi, devient le nouveau supermarché en fait de la WWE en tête de file, de la même manière, je fais une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais que les gobelins sont un peu le supermarché pour les États-Unis de Disney, Pixar et compagnie, des talents français qui vont engager chez eux après quoi.
Oui, et puis, bon, quand même, c'est le début des années 2010, donc YouTube est en plein essor, Twitter débarque, donc tout devient de plus en plus accessible. Et puis, le truc, c'est que la Ring of Honor, elle s'avoue vaincue, en fait. Tout de suite, elle va un peu changer son fusil d'épaule et elle va dire que son leitmotiv, son slogan, c'est « Creating Excellence », donc je crée de l'excellence, mais pour les autres qui ne me profitent pas. Donc c'est déjà, enfin, du point de vue extérieur et d'un point de vue communication, c'est ouais, on assume d'être piqué quoi, d'être volé. Ouais, nous on est l'excellence, mais du coup l'excellence elle part ailleurs quoi. Et puis au fur et à mesure, il y a aussi The Elite. Donc on parlait de Bullet Club, The Elite, donc tous les Young Bucks, Adam Cole, Kenny Omega, tout ça qui vont prendre énormément de place aussi via Being the Elite, via le fait que c'est aussi des stars à la New Japan, donc c'est les premières un peu stars occidentales qui vont vraiment prendre de l'importance, qui vont devenir des main eventers au Japon. Donc ils ont forcément une place prépondérante à la Ring of Honor, sauf que eux, voilà, ils peuvent très bien être populaires et marcher et faire de l'argent sans la Ring of Honor, et notamment bah, ils vont faire le pari de faire All In en 2018. Alors certes, ils s'appuient sur la Ring of Honor, sur les moyens de la Ring of Honor, sur la production de la Ring of Honor, sur le staff de la Ring of Honor pour le faire, et d'ailleurs la Ring of Honor a toujours les droits du show, c'est pas la EW, hein, qui a le droit de All In, parce que c'est antérieur à la création de la EW. Mais finalement, ça va être le point d'ancrage sur lequel va s'appuyer Tony Khan pour faire la EW, et tout ce groupe-là va partir pour former la EW. Donc la Ring of Honor, qui a finalement un peu cultivé ces gens-là, qui a même participé à leur essor, là encore, ne va pas pouvoir en profiter. Et elle va être encore retardataire sur l'industrie, sur ce qui se fait de nouveau, notamment avec leur show G1 Supercard. Donc c'était un show à la fois New Japan et à la fois Ring of Honor au Madison Square Garden de New York en avril 2019, qui est plein à craquer. C'est le premier show qui n'est pas présenté par la famille McMahon depuis les années 60. Donc c'est un truc historique, sauf que tout le monde sait que ceux qui ont un peu vendu ce show, c'est à la fois la New Japan et The Elite. The Elite qui est désormais absent de la Ring of Honor. Et donc quand on regarde ce show-là, on voit deux compagnies qui ne sont pas à égal. La New Japan, les stars de la New Japan, Okada, Jay White, Tanahashi, Zack Sabre Jr., Kota Ibushi, ils sont vraiment au-dessus du lot de ce qui reste de la Ring of Honor. Les Marty Scurll, les Matt Taven, tous ces gars-là, ils sont un peu les Jay Lethal aussi, mais tous ces gars-là, ils n'ont pas la même popularité, ils n'ont pas la même aura que le reste. Et puis en plus, c'est à ce show-là aussi où on a Enzo et Big Cass qui débarquent de la WWE et qui font une petite invasion que tout le monde rejette, tout le public est contre. Et d'ailleurs, ils n'iront pas, ils seront pas signés à la Ring of Honor à cause de ce début calamiteux. Et voilà, la Ring of Honor, elle commence à perdre beaucoup d'importance, beaucoup d'influence, surtout avec l'AEW qui prend beaucoup de place aussi sur le marché. Et elle va essayer de signer des catcheurs, un peu comme la WWE et la AEW qui, à la formation de la AEW, a essayé de vraiment faire leur marché pour la guerre des signatures. Et eux et la Ring of Honor va signer des Bandido, des Jeff Cobb, des PCO aussi. C'est un catcheur, je ne sais pas si tu connais PCO, mais Pierre-Carl Houlette, qui est un catcheur. Ouais, délire Frankenstein. Qui revenait un peu dans l'actualité. Et puis ensuite, voilà, on reboucle la boucle. Grosse inactivité Covid, et donc on en arrive là où on en arrive aujourd'hui, quoi.
Alors j'ai une grosse question, genre polémique, histoire de faire un petit instant à racole. Est-ce que... Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté très, très fataliste, je pense, dans l'histoire de la ROH, et de se dire, bon... un petit peu par l'aveu d'impuissance, à quoi bon, on les laisse faire leur marché et nous on tire notre beurre du truc, et finalement les athlètes c'est pas trop notre affaire, ils se démerdent, ce qu'on pu faire, ce qu'on vient de dire The Elite en tirant leur épingle du jeu, mais est-ce que en réalité tu penses franchement que ça aurait pu être possible? Je m'explique, hein, je pose quand même un truc, si on est très bas du front et sans avoir une connaissance hyper pointue de l'économie du catch, l'AEW elle s'est pas faite par hasard, c'est-à-dire que c'est le conglomérat effectivement de toutes ces grosses stars posées avec la narration qui a été Being the Elite, hein, on le rappelle, les moyens qu'ils avaient, faut pas oublier du côté Rhodes aussi, hein, Cody qui a quand même un héritage, on accroche ou pas au bonhomme, quoi que ce soit, c'est pas la question, mais tout cet héritage-là de Dora, de prestige, surtout au niveau états-unien, et Mr. Khan, effectivement, Tony Khan, donc milliardaire, si j'ai voir multimilliardaire, je sais plus, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, déjà, un petit milliard, c'est pas mal. Et est-ce que tu penses, donc ça me permet de te redonner le micro, que ça aurait pu en réalité être possible autrement qu'avant ce qui a été fait par la AEW?
Alors c'est difficile de refaire l'histoire, hein, mais ah oui, juste pour Tony Khan, c'est pour ça que je voulais reprendre la parole. C'est, je sais pas si lui techniquement il est milliardaire, mais en tout cas c'est surtout son père qui est milliardaire, qui est enfin il a un club de foot anglais, il a un club de enfin il a une équipe de football américain, il a une grosse entreprise, je sais plus de quelle nature elle est, mais enfin voilà, il y a beaucoup d'argent chez les Khan, et Tony Khan voilà avait fait son business plan et avait dit à papa, est-ce que tu peux être le premier investisseur s'il te plaît, et c'est pourquoi pas, hein, mais de toute façon la AEW a réussi à faire taire tous les détracteurs quand ils ont re-signé un contrat TV avec TNT, et qui maintenant depuis sa deuxième année d'existence elle fait du profit, elle est dans le vert, c'est quand même ouf. C'était un beau pari, mais je pense que la Ring of Honor avait de quoi au moins bloquer l'histoire, c'est-à-dire vraiment redoubler d'investissement, parce que certes c'est une filiale, mais son entreprise propriétaire, SBG donc, a des milliards de dollars. C'est un énorme conglomérat médiatique, on n'a pas l'impression, hein, vu ce qu'ils en ont mis dans la Ring of Honor. Certes, ils ont mis des moyens pour la production, etc. Vraiment nettoyer un peu, faire des images clean, faire des shows clean, etc. Mettre une structure peut-être aussi salariale qu'elle n'avait pas avant. Mais ils ont vraiment beaucoup d'argent, et s'ils le voulaient, ils auraient pu déjà garder ces talents-là peut-être sous leur houlette, ou en tout cas une partie. Et aussi, enfin, s'écarter de ce modèle de on fait qu'un show qui est diffusé au niveau régional, tu l'as pas, on s'en fout, on fait des pay-per-view à côté, ça nous convient, et essayer de dire on va avoir un droit, on va investir dans une chaîne nationale, on va faire un vrai show comme Dynamite par exemple. Et vraiment prendre une place qui n'est plus de troisième position très très lointaine, et vraiment redoubler d'importance, surtout que à cette époque-là, la TNA, enfin qui est maintenant Impact Wrestling, là aussi, réécoutez notre podcast là-dessus, elle avait plus trop de place. Avant, elle était seconde, certes distante, mais elle avait plus de place à la télévision. Donc il y avait une place à prendre, ce qu'a pris la EW avec brio. Mais il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'était quelque chose à faire qui aurait remplacé la AEW, peut-être que la AEW non, aurait existé, mais elle n'aurait pas eu ce boom qu'elle connaît depuis sa fondation, entre guillemets. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à la Ring of Honor, c'est qu'elle était en retard aussi. On n'en parle pas beaucoup, parce que la Ring of Honor, quand on pense à la Ring of Honor, on pense aux gros matchs masculins, à Samoa Joe, à CM Punk, à Brian Danielson, à tous ces noms-là qu'on a déjà cités, mais ne serait-ce qu'au niveau du catch féminin, par exemple. Ça, c'est emblématique de son retard, je pense. Elle s'est mise au catch féminin quand, voilà, fin des années 2010. Alors, j'ai les chiffres quelque part, si vous me laissez deux petites secondes pour le retrouver, je vais leur retrouver ça. Voilà, première championne féminine de la Ring of Honor, c'est en avril 2018. Même la WWE avec sa Women's Revolution, ça faisait déjà quelques années qu'elle avait commencé. Donc pour une compagnie qui était déjà qui avait une réputation, une notoriété de le meilleur catch qu'on peut trouver aux États-Unis, si ce n'est dans le monde, mais en plus du catch vraiment en avance sur son temps en termes de technique, de présentation, en tout cas in-ring, de montrer du catch féminin aussi tard. Et en plus avec si peu d'investissement en termes de temps, de talent, etc., c'était assez difficile à avaler pour les fans loyaux de la Ring of Honor.
Surtout que tu parlais de talent, honnêtement, la une des plus emblématiques qui est Kelly Klein, c'était vraiment pas fifou quoi, en termes de in-ring, objectivement, même si elle imitait plein de bonne volonté, ça suffisait pas quoi, et les matchs étaient loin d'être enthousiasmant. Donc voilà, tu sens qu'ils ont, comme tu le dis très bien, ils n'ont pas voulu pousser plus que ça de la recherche de talent. Et c'est d'autant plus triste que, comme tu le dis, hein, c'est extrêmement tard. Je ne pensais pas que c'était aussi tardif, mais 2018, on était déjà depuis un petit bout de temps. Alors, il fallait aller quand même dans des fédérations assez roots, mais il y avait déjà de l'éclosion de catch intergenre, de choses comme ça. Donc, un petit indice quoi qui vient de donner, bah tiens, si on mettait pas forcément de l'intergenre, mais si au moins effectivement on développait bien nos talents de catcheuse, etc., Voilà, c'est vraiment. Je te rejoins, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, c'est vraiment dommage.
Oui, puis tu parles de Kelly Klein. C'est elle qui a révélé aussi une affaire assez sombre, parce que la Ring of Honor, elle avait pas trop de casseroles, quoi, à part l'histoire de Rob Feinstein. C'est une compagnie aussi qui était assez. Assez propre sur elle, entre guillemets, en termes d'image et aussi bah, voilà, et d'affaires.
Pas dans le cadre du catch, ce qui lui est arrivé, c'est hors contexte catchesque.
Oui, parce qu'en fait, elle a eu une commotion cérébrale, voilà, comme ça arrive souvent chez les catcheurs, malheureusement. Et elle a révélé que la Ring of Honor, enfin en tout cas, le manager de la Ring of Honor de l'époque, qui s'appelait Greg Gilliland, l'a traité un peu comme de la merde. Il disait, c'est ton problème, si t'as une commotion cérébrale, toi tu viens catcher, puis c'est tout, enfin on te paye pour catcher. Et Joey Mercury aussi, qui est un catcheur qui est de la WWE des années 2000, qui était, je crois, producteur ou agent, ou je sais pas quelle position il avait dans la Ring of Honor, à la Ring of Honor à ce moment-là, corroborait ce genre de propos. Enfin, du coup, là, ça ternissait un peu l'image de la Ring of Honor, qui était déjà assez, assez basse à ce niveau-là, par rapport à sa popularité, simplement. Hein. Et donc, en 2020, elle va organiser même un show gratuit. Elle s'abaisse à ce niveau-là avec Free Enterprise, centré autour de Marty Scurll. Marty Scurll qui va devenir son booker fin 2019, début 2020. C'est le seul de The Elite à ne pas aller à la AEW. Il va devenir booker, donc. Et très vite, en fait, avec Speaking Out, début 2020, il va quitter la Ring of Honor parce que lui aussi va être dans une affaire... Il n'y a pas eu de procès, donc c'est difficile de se prononcer, mais un peu sombre avec une mineure, donc voilà.
Et pour Joey Mercury, effectivement, pas mal en phase la direction de la ROH, du dojo ROH, dont on parlait un petit peu rapidement.
Une sale gueule.
Grave. Et donc membre de l'équipe créative. Après, c'est vrai que y a plein de trucs d'occasions manquées. Moi, au fur et à mesure que je remontais le fil de l'histoire, et encore plus là avec tes éclairages depuis le début de l'émission, parce que c'est vrai que Kelly Klein, quand on voit le récit, on a l'impression d'avoir les heures noires de la WWE avec CM Punk par exemple, qu'ils avaient vachement pris en grippe, notamment d'un point de vue médical, avec de vraies situations de danger. Je me souviens d'un récit chez nos collègues de Cahiers du Catch qui expliquait, je crois qu'il avait un staphylocoque et qu'en gros il avait été déclaré out, et que finalement Non, le médecin sous pression a été dire non, tu le clear parce qu'il faut qu'il revienne. Enfin, c'est des trucs assez aberrants. C'est moi, en remontant, je vois que c'est un peu gros gâchis. Et puis, malheureusement, comme souvent, les catcheurs qui en font les frais, on va peut-être revenir. C'est pas l'idée d'arrondir les angles, mais peut-être sur les belles choses quand même qu'il y a pu avoir de la ROH, des sacrées rivalités. Bon, je te redonne le micro, je t'emboîterai le pas parce qu'il y en a certaines que j'ai pu recouvrir le temps de la préparation de l'émission, donc je te laisse voir si est-ce qu'on part sur du chronologique, est-ce qu'on part sur des rivalités de cœur. C'est toi le lead.
Non, on va laisser parler le cœur quand même, parce que la chronologie, on en a déjà fait pas mal. J'ai intitulé un peu cette partie, je vous le dis, dans le mille et mille, c'est la Ring of Honor, c'est qui ? Quand je pense à la Ring of Honor, ou quand Mehdi pense à la Ring of Honor, on pense à qui ? Et on a envie de vous faire penser à qui ? Moi, forcément, je pense, parce que c'est mon côté un peu dévoreur, c'est Gabe Sapolsky, c'est un peu le faiseur. C'est quelqu'un qui était comme on vous l'a expliqué, le booker, l'un des fondateurs aussi de la Ring of Honor. C'est lui qui va avoir l'idée de faire rencontrer toutes ces pépites du catch américain. En fait, il est très fan de catch japonais, donc il est disciple de Polyman, donc il a cette connaissance de la créativité catchesque, et c'est lui qui va nous offrir, avant d'être dégagé en 2008 et de fonder après l'Evolve et Dragon Gate USA, Evolve qui va être racheté par la WWE au final, Evolve qui a été cofondé par Bryan Danielson aussi.
Oui.
Intéressant. Et donc voilà, c'est lui qui va nous offrir, il va nous offrir, pas tout seul évidemment, c'est toujours en collaboration avec les catcheurs, mais c'est lui surtout qui va avoir les idées, des choses comme Samoa Joe et CM Punk. C'est le truc, quand on pense à la Ring of Honor des premiers jours, c'est le truc que tout le monde cite, parce que c'est cette rivalité là qui va nous offrir donc trois matchs d'une heure enfin, deux matchs d'une heure, puis un match qui arrive aux 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça fait penser à Kenny Omega et Okada, hein, mais avec 15 ans d'avance, quoi, 10 ans d'avance. Et ça va offrir à la Ring of Honor son premier match 5 étoiles. Le premier match 5 étoiles, donc noté par le journaliste Dave Meltzer. Aux États-Unis, le premier à être noté depuis, donc ça faisait, je crois, 8 ans, un truc comme ça.
Ah ouais.
Donc c'était un achievement quand même. Donc ouais. ça les a mis un peu sur le devant de la scène. Et puis il y a toute la génération ensuite d'après avec Kenta, donc le catcheur japonais de la Noah, qui va vraiment mettre du strong style, qui va injecter du strong style vraiment stiff dans la Ring of Honor. Puis avec toute la rivalité, moi aussi, qui est dans mon cœur, Bryan Danielson et Nigel McGuinness, sur plusieurs années, qui va se terminer en 2009 avec le départ de Bryan Danielson et de Nigel McGuinness, normalement pour la WWE. Et puis finalement, la WWE ne va pas garder Nigel McGuinness, enfin, elle ne va même pas signer Nigel McGuinness. Parce que voilà, il a eu énormément de problèmes de commotion cérébrale. Il a eu un problème au biceps aussi. Et puis il a été testé ensuite. Je sais pas si c'est à ce moment-là ou plus tard. Il me semble que c'est plus tard qu'il a eu une hépatite. Donc s'il saigne, c'est assez problématique, hein, quand même. C'est une MST quand même. MST puis par les fluides aussi, tout ce qui est sanguin. Il y a tout un pas une romance au niveau romantique, au niveau amour, mais tout un presque une pièce tragique avec ces deux-là, parce que là tu me le rappelais en off, c'est Brian quand il gagne son premier titre mondial à la WWE, le premier à qui il va envoyer un texto et qui va remercier pour tout ce qu'il a eu auparavant pour l'amener jusqu'ici, c'est Nigel McGuinness. Et Nigel McGuinness, il s'y attendait pas du tout parce que voilà, ils étaient dans deux mondes différents depuis et ça l'a beaucoup touché, ça l'a beaucoup marqué. Et maintenant, Nigel McGuinness, il est commentateur à NXT UK, donc à la WWE, donc finalement, il a réussi à faire son chemin là-bas. Mais voilà, c'est ce genre de figure-là, moi, qui me marque, je sais pas, toi, pour toi.
Non, mais encore une fois, on remercie notre ami Joseph Monticello pour ses vidéos, parce que moi, c'est comme ça que j'ai rattrapé mon retard, notamment avec cette rivalité que tu viens de citer avec McGuinness et Danielson, Danielson, comme on aime à l'appeler, pour les fans de Karate Kid. Et en gros, moi, je retiens, étonnamment, je suis passé entre les mailles de... j'ai vu un des deux matchs d'une heure de CM Punk et Samoa Joe, mais je retiens beaucoup plus Samoa Joe. Je sais pas, je suis plus tombé sur ces matchs, ou est-ce que c'est le charisme du mec, ou est-ce que ça a coïncidé avec le fait qu'il arrivait à NXT et que ça revenait avec cette boulimie d'envie de découvrir à l'époque. Et du coup, Kenta, j'ai pas trop suivi, mais voilà, je dirais Samoa Joe, donc Daniel Bryan Danielson, et la rivalité Ed Generico, Kevin Steen, donc Kevin Owens et Sami Zayn. Incroyable, un match de l'échelle à voir absolument, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est vraiment formidable. Oui,
pas un match de l'échelle, un ladder war.
La précision est de taille. Non, mais c'est vraiment un des matchs qui est dans mon panthéon. Après, évidemment, c'est pas genre pour faire style smart, si vous voulez, mais grosso modo, il y a toute la partie, comme je disais, parce que je suis très sensible d'y élite, mais qui pour moi, il y avait un rapport particulier, encore plus avec l'éclairage que tu viens de donner, était déjà un peu trop paillette, dans le sens où c'était le moment où... Alors, il n'y a pas de mépris là-dedans, je suis très heureux quand le catch arrive sur la scène mainstream et que ça se fasse connaître par le plus grand nombre, il n'y a aucun souci, c'est pas un truc du genre « laissez ma fédération tranquille ». Le moment, un petit peu, le point où j'ai réalisé particulièrement ça, c'était la pastille qui avait été faite par le magazine Rolling Stone en format vidéo du départ justement d'Adam Cole à la WWE et qui marquait l'arrivée de Marty Scurll qui justement venait le virer dans le pur héritage Bullet Club de tabassage. De passage à tabac lorsque un membre est éjecté et qu'un nouveau leader est nommé. Et voilà, donc c'est évidemment, moi ça me touche. J'ai Lethal aussi, dans une moindre mesure. Et puis, alors les Briscoes, très très light parce que c'est plus par la supercard que j'ai pu les connaître petit à petit, de me dire tiens ils sont assez intéressants, de dans le même genre d'enthousiasme que je peux voir un Santana et Ortiz aujourd'hui, dans le même genre de folie comme ça, d'explosivité des deux. Et non voilà, sinon après plus récemment j'ai déjà balayé pas mal de catcheurs, mais évidemment là c'est vraiment le kokoro comme on dit au Japon, le cœur qui parle, mais El Bandido qui est tellement incroyable, qui crève tellement l'écran à plein de niveaux, qui lui m'a fait revenir sur les derniers mois, dernières années vers quelques matchs ROH. Mais voilà, si je devais vraiment choisir, donc Samoa Joe, Danielson et Ed Generico, Sami Zayn qui sont tellement et Kevin Steen pardon, qui sont tellement indissociables pour moi, que de la même manière que pour toi, McGuinness et Danielson sont presque une même personne, en tout cas dans leur rivalité.
Oui, et puis c'est marrant parce que moi, j'ai cité toute la période, justement, je le citais au début, parce que en fait, c'est toute la période où Gabe Sapolsky est aux manettes, et après, il n'est plus aux manettes, et on a des Kevin Steen, on a des El Generico. Moi, j'ai adoré cette rivalité-là, parce que moi, j'étais en plein cœur de la rivalité quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé aussi avec les American Wolves, donc c'est Davy Richards et Eddie Edwards. Et là, c'était plus du catch, on va dire, pur. C'est deux anciens coéquipiers qui vont vraiment essayer de savoir qui est le meilleur, mais sans animosité, sans haine. Alors que Kevin Steen et El Generico, c'est complètement l'inverse. C'est deux coéquipiers qui n'ont rien à voir, mais qui ont bourlingué dans le catch indépendant canadien, puis américain. Et finalement, Kevin Steen qui va se laisser avoir par les conseils dans son oreille d'un certain Steve Corino, qui est une mauvaise personne, il le dit lui-même, hein, c'est pour ça, et qui va l'inciter à trahir son partenaire et à partir voilà, en solo, quoi. Mais d'une manière hyper violente, vraiment c'est couper le cordon, mais avec une scie sauteuse, quoi. Et El Generico, qui est un personnage tellement emblématique du catcheur indépendant, où c'est un catcheur qui est un peu mutique, mais parce qu'il est mexicain, mais il parle pas un mot d'espagnol, donc... voilà, c'est toujours bueno, si, tu vois, enfin, il y avait à la PWG, il était partenaire avec Colt Cabana, et Colt Cabana qui essayait de le faire parler en espagnol, mais il n'y arrivait pas du tout, donc il se tapait des fous rires, voilà.
Mais justement, par rapport à ça, un truc qu'on n'a quand même pas cité, et qui a sa place, et que moi j'ai... m'en suis particulièrement rendu compte en préparant l'émission, c'est la dimension drôlatique aussi de la ROH. Tu viens de lâcher le nom de Colt Cabana, mais pas que, bien entendu. Il y a eu beaucoup de choses très 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 drôles qui ont été faites tout au long de l'histoire de la ROH, et peut-être qui se feront, c'est tout le malheur qu'on leur souhaite, en tout cas s'ils redémarrent sur des basses scènes. Mais voilà, il y a cette dimension très très fantasme. Bon, c'est vrai que quand on s'intéresse un minimum au catch indé, on sait que c'est un peu toujours une petite branche d'ADN toujours présente, hein, cette dimension un peu excentrique qui a une place dans la carte. Mais c'est bien aussi de le pointer, pas aussi exacerbé qu'à la PWG, mais quand même présente.
Oui, surtout que ça montre que même si son postulat de départ, c'était voilà, rendre le catch entre guillemets pur, purement au niveau technique, il y a le code de l'honneur, on n'en a pas parlé, mais le Ring of Honor, elle s'appelle Ring of Honor pas pour rien, c'est aussi par rapport au code de l'honneur, donc c'est un outil de narration où voilà, on essayait de faire en sorte que les catcheurs se serraient la main avant et après pour faire un duel de chevaleresque, un peu de gentilhomme. Et puis il y a tout ce côté, celui qui ne respecte pas le code de l'honneur, c'est un heel finalement, c'est un méchant. Et le premier à le faire, c'est Christopher Daniels d'ailleurs, qui refuse de serrer la main à son adversaire, et qui va fonder un peu voilà, toute cette mythologie. Et on va y revenir parce qu'en plus, c'est un autre, peut-être le dernier nom le plus emblématique que je voulais évoquer, c'est le plus récent, c'est Jonathan Gresham, qui lui va justement va essayer de se focaliser, en fait, son personnage, sur remettre de l'honneur et remettre de la pureté dans la Ring of Honor, voilà, essayer de revenir aux fondamentaux avec son clan qui va appeler The Foundation d'ailleurs, et il va devenir il va redevenir le Pure Champion, donc le champion pur, parce que pendant plusieurs années la Ring of Honor avait un titre de championnat qui s'appelait le Pure Championship avec des règles très particulières. vraiment pour favoriser ce catch technique, pour éviter tout ce qui est intervention à l'extérieur, les chaises, tous ces trucs-là. Et c'est lui qui va en fait essayer de remettre la Ring of Honor sur de bons rails. Et c'est lui qui va être emblématique aussi des années du Covid, parce que quand la Ring of Honor reprend après son inactivité, qu'elle refait des shows là à huis clos, c'est avec le championnat pour couronner ce nouveau Pure Champion qu'elle va le faire. Et d'ailleurs, on va peut-être en reparler dans un instant, le dernier show Final Battle, donc son dernier show avant son inactivité peut-être éternelle, enfin perpétuelle, il est terminé par Jonathan Gresham qui devient champion du monde de la Ring of Honor. Donc c'est assez emblématique aussi. Et d'ailleurs, il fait un discours à la fin, voilà, on va peut-être en parler tout de suite. À la fin, il fait tout un discours mi-kayfabe, donc mi-narration, mi-shoot, donc mi-réel, où il dit que voilà, ça y est, maintenant qu'il est champion, la Ring of Honor est purifiée de tous ces mâles, de tous ces écueils. Ouais, voilà, c'est ça. Que maintenant qu'il a le championnat du monde entre ses mains, il va pouvoir reconstruire la Ring of Honor à son image. D'ailleurs, il a déjà fondé sa propre promotion qu'il a appelée Terminus. Alors pourquoi Terminus, je sais pas. Mais en gros, ça va être une promotion hyper technicos pour les fans les plus purs.
Pardon, c'est le truc de parisien de base dans le métro. Vous avez effectivement descendre par la gauche. Non, pardon, c'est beaucoup plus intéressant ce que tu disais. Vas-y, vas-y.
Et donc, il tient tout ce discours-là. Je sais plus ce que j'avais noté en voyant le match. Donc, il l'a gagné contre Jay Little, qui est revenu remplacer Bandido, que tu citais. Parce que Bandido, comme l'année dernière, c'est la force des choses, hein, c'est pas sa faute. Il s'est fait retester positif au Covid-19. Sauf que Bandido, c'était le champion du monde de la Ring of Honor. Donc pour un dernier show, c'était assez bon. Voilà. Et donc il avait même la ceinture avec lui parce qu'il est au Mexique actuellement. Donc Jonathan Gresham, il a gagné. Et c'est marrant parce que c'est l'ironie de l'histoire, mais du coup, ça rajoute de la symbolique. Non, il n'est pas sans ceinture. Ce qu'on lui a donné comme récompense de ce gain de championnat-là, c'est la ceinture, la première ceinture de champion de Ring of Honor, qui est très moche mais qui est emblématique, qui est argenté avec juste ROH en rouge, qui ressemble à la ceinture de champion pur d'ailleurs, parce que c'était l'idée de ce championnat là donc c'est très emblématique. Et alors je retrouve ce qu'il dit parce que ça m'a marqué.
Le temps que tu cherches, moi il y avait un truc très intéressant de ce que tu disais, cette dimension des règles de pure, etc., assez sportive, assez esprit de combat, boxe, ce qu'on veut. Ça m'amuse parce que je trouve, est-ce que c'est pas ce vers quoi devrait tendre l'AEW, qui s'empêtre dans cette volonté de se rapprocher de manière beaucoup moins maladroite que la NJPW à l'époque de l'inokisme, qui voulait envoyer au casse-pipe effectivement ses catcheurs dans du free fight, ou dans une moindre mesure ce qu'a fait aussi la WWE, soit en s'entichant de gens du free fight. Bon, Brock Lesnar, c'est plutôt globalement réussi, il a une belle période beaucoup plus calme et hollywoodienne maintenant, vu les apparitions sporadiques qu'il fait, ou que l'AEW récemment, qui à tout prix veut son compteur, son truc très calqué sur le modèle de la boxe, du MMA, ce que vous voulez. Donc c'est amusant, j'ai eu un petit sourire en coin quand je regardais les vidéos de Joseph Monticello sur le sujet, et j'ai beaucoup appris de ces histoires de règles. J'allais même te demander en fait, est-ce que ça a été fait dans d'autres fédérations de manière aussi marquée, mais j'ai l'impression que là c'est un peu aussi l'ADN probablement, mais c'était vraiment l'ADN volontaire de la ROH dans le titre même de la fédération.
Alors, il y a plusieurs réponses à apporter à cela. C'est à la fois, il y a le côté toujours en contre-courant de son propre héritage avec la ECW, parce qu'elle avait des règles aussi, c'est-à-dire que c'était plutôt l'absence de règles, c'est-à-dire que dans tous nos matchs à la ECW, il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, ce qui arrive arrivera, voilà. Alors que la Ring of Honor, c'était plutôt l'inverse. Non, on va mettre un décompte à l'extérieur, mais en plus, on va mettre un décompte de 20, ce qui ne se faisait pas aux États-Unis. On va mettre des... Au Japon, par contre, oui. On va remettre des time limits au match. Du coup, ça mettait de l'importance avec les matchs de CM Punk et Samoa Joe, voilà. Et puis les règles donc de Pure Wrestling, c'était encore un niveau au-dessus parce qu'il y avait tout un délire sur les rope breaks. Donc on avait Parce que normalement, quand on est dans une prise de soumission, donc on est près des cornes, l'arbitre exige de l'adversaire de briser la prise. Or là, on avait seulement 3 rope breaks possibles. Si au bout des 3 rope breaks exercés, si la prise était dans les cordes, et ben c'était tant pis pour toi.
Et je crois d'ailleurs qu'on en perdait un, je sais plus en fonction de quelle action. On pouvait perdre un rope break sur une action anti-sportive ou je sais plus quoi, je me souviens plus. Mais regardez le récap de Joseph Montecello sur McGuinness et Diane Bryal. Non seulement c'est vachement chouette et en plus vous verrez tous ces détails là qui sont listés.
Et alors pour répondre aussi sur le fait, est-ce que c'était un truc un peu exclusif, l'Evolve a repris le truc après, pas pour ces règles là mais pour les compteurs de victoires et de défaites. Ce qu'a repris la UW ensuite, depuis son existence en fait, depuis ses débuts. Et je crois que c'est Impact Wrestling, donc la TNA, qui a essayé de le faire aussi avec un championnat qui n'a pas duré très longtemps, qui s'appelait le Grand Championship. Et il y avait pareil des délires de règles de rope break, etc. Mais aussi, il y avait toute une affaire de juges, un peu comme à la boxe. Tu sais, si le match excède son temps limite ou son nombre de rounds limite, c'est des juges qui vont donner des points à chaque compétiteur et qui va déterminer le gagnant par décision, comme on dit. Voilà. Je voulais parler aussi de la Ring of Honor, c'est quoi ? Parce que c'est pas seulement des catcheurs ou des beaux matchs, mais c'est aussi tout un folklore, toute une ambiance, pour moi en tout cas. Donc on en parlait un peu plus tôt, mais il y avait toute cette idée de c'était crasseux quoi. La lumière elle est beaucoup trop forte, les bruits il est toujours saturé, on voit pas le public, mais en même temps on fait que l'entendre. Il arrête pas de tambouriner sur les barricades. Il reprend le truc des Japonais aussi de balancer des streamers, donc les petits rubans de couleur à l'entrée des catcheurs qu'il aime.
C'est pas balancer Squeezie dans le public, hein, balancer des streamers.
Donc il y a toute cette idée là et puis il y a aussi la culture du fan de la Ring of Honor. Je sais plus qui utilisait le terme de tribalisme, alors je sais pas si ça marche en français, mais en tout cas en anglais c'était le terme. Il y a le côté tribu avec les fans de la Ring of Honor. Nous on connaît un peu ce que tu disais, comment ça se fait que Seth Rollins il catch super mal à la WWE alors qu'à la Ring of Honor c'était rien à voir. Moi je suis fan de la Ring of Honor, moi je connais ses meilleurs matchs à Tyler Black parce que moi je sais qu'il s'appelle Tyler Black et pas Seth Rollins. Il y a tout ce côté là, bon un peu toxique par moment, mais il y a une vraie fierté à être fan de la Ring of Honor parce que elle te le rend bien quoi. Et ça je pense que c'est la EW qui le reprend, ce flambeau là où on sait que quoi qu'il arrive elle va nous proposer au moins un match excellent, où elle va nous proposer on a très envie de voir ce catcher là contre ce catcher là, on sait qu'on va l'avoir à un moment ou à un autre, et ça c'est la Ring of Honor qui y arrivait. Et puis juste pour terminer, il y avait un sentiment, un esprit de d'héritage déjà de linéarité avec le championnat du monde par exemple. D'ailleurs les fans le pressentaient dès qu'il y a un catcheur qui commençait à monter dans la compagnie, c'était next world champ, donc prochain champion du monde en gros. Et ça a toujours été vraiment très entre guillemets mérité d'être champion du monde à la Ring of Honor, donc c'était un vrai accomplissement. Et puis on l'était souvent longtemps, en faisant mes recherches, en presque 20 ans d'existence le titre a été rendu vacant que deux fois. Une fois parce que c'était Jay Briscoe qui était champion, il a été blessé, voilà. Et là, c'était une blessure qui ne pouvait pas le permettre de catcher pendant plusieurs mois. Et la deuxième fois, c'est ce week-end avec Bandido qui est testé positif au Covid et que c'est le dernier show, donc il faut forcément couronner quelqu'un, enfin, il faut forcément que le titre soit en jeu, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu disais sur les champions, c'est qu'il y a une vraie fidélité, ils sont vraiment adulés, et on le voit, on se répète beaucoup, mais pour moi ça a été vraiment la base que m'a offerte sur un plateau d'argent Félix avec cette vidéo de Joseph Montecello. Il y a cette rivalité psychologique dans un moment de un des actes de leur tragédie en fait, comme on le disait un peu plus tôt aussi, dans le sens où il y a un moment, il y a un appel qui se fait même plus par le catch mais qui se fait par la voix. Qui est votre champion? Et à chaque fois, c'est Danielson qui arrivait à avoir l'aval du public. Et c'est là où ça rend McGuinness encore plus tragique, dans le sens où il a jamais, en plus de cette non reconnaissance à la WWE qui leur aurait permis vraiment une sortie et probablement une envolée, mais on va pas refaire l'histoire, a eu en plus jamais totalement eu ou de manière assez amère à la ROH cette reconnaissance là. Et je terminerai aussi justement, tu disais dans la façon de faire valoir comme ça ces catcheurs et tout ou d'autres fédérations, il y a du côté de la EW dans le côté cercle vertueux, alors c'est peut-être moi qui m'enflamme, qui suis un peu trop utopiste sur les bords, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif en ce moment de ce côté là où on fait venir des gens d'un peu partout, mais c'est transparent d'où ils viennent, déjà parce que maintenant les réseaux d'infos, on peut savoir vite en un clic, mais moi j'ai pas beaucoup de mal de savoir qu'un tel est prêté par la Power, par que sais-je, et c'est chouette, enfin, c'est cette transparence-là. Après, c'est vraiment la promesse de la EW. J'espère qu'ils ne vont pas se connardiser et renfermer tout leur talent plus tard. Mais souhaitons que cette logique et cet ADN de l'indé, qui je pense n'aurait pas été possible sans une fédé comme la ROH, et c'est un peu le but. Moi-même, je suis convaincu que c'est une évolution vraiment centrale du catch, pas que par ses matchs et par ses talents, mais aussi par la symbolique qu'elle a pu porter et qu'elle portera peut-être encore, souhaitons-leur.
Ouais, c'est vraiment, on peut embrayer là-dessus sur voilà l'héritage de la Ring of Honor, c'est ça, c'est d'avoir vraiment influencer le catch de deux manières selon moi. C'est le côté elles ont donné on parlait des champions, enfin si tu listes la grande majorité des champions du monde de la Ring of Honor, ils sont devenus des stars ou même des champions du monde ailleurs, dans des fédérations comme la WWE notamment, enfin Bryan Danielson, Samoa Joe, CM Punk, AJ Styles n'a pas été champion du monde de la Ring of Honor, c'est marrant, mais Seth Rollins, Kevin Owens,
champion, je crois, AJ Styles d'ailleurs, de quasiment tout son parcours.
Oui, il a été champion par équipe, il me semble, à la Ring of Honor, mais jamais champion du monde à la Ring of Honor. Alors qu'il était parmi l'un des piliers au début. Hein. Et puis après, il y avait eu toute la TNA aussi, hein, qui partageait ses talents avec la Ring of Honor. Enfin, Samoa Joe, AJ Styles, Christopher Daniels, qui ont vraiment construit la X Division à l'époque de la TNA. Enfin, ils venaient de la Ring of Honor. Et d'ailleurs, il y avait eu tout un moment où la TNA voulait se les garder pour elle-même. Et donc, il y a des catcheurs qui ont dû faire des choix. Est-ce que je reste exclusif à la TNA ou est-ce que je reste avec la Ring of Honor ? Il y a des catcheurs comme Austin Harris qui a choisi de rester avec la Ring of Honor. Et donc oui, pour moi, l'héritage, il y a ça, c'est ces catcheurs-là. Mais il y a toute l'influence stylistique, certes, dans le ring, mais aussi l'influence de fonctionnement d'une compagnie. On reste ouvert, en fait. On reste ouvert. Et puis le côté on va donner à voir du beau catch aux fans, mais ouais, on reste ouvert parce que non seulement certes ça a été à son déficit, mais on avoue donner des stars aux autres, mais aussi ils en recevaient, parce que dès qu'un catcheur quittait la WWE, notamment dans les années 2000 par exemple, du côté Ring of Honor, il y a Paul London et CM Punk qui sont partis pour la WWE, mais dans l'autre sens, il y a eu par exemple Matt Hardy qui s'est fait virer avec toutes ces histoires avec Edge et Lita au milieu des années 2000, il est allé à la Ring of Honor. Christian Cage, il n'a pas voulu rester à la WWE, il est parti. D'abord, il a catché la Ring of Honor, ensuite il est parti à la TNA, il est devenu champion du monde, etc. Et il y avait des catcheurs qui étaient en froid avec la WWE, enfin des catcheurs, on va dire, de légende. Mick Foley, par exemple, il est passé par la Ring of Honor. Ric Flair, Bruno Sammartino aussi, enfin voilà, des petites apparitions comme ça. Mais voilà, elle était ouverte, elle n'était pas exclusive à ce lot de catcheurs-là. Et on le voit maintenant avec la EW qui n'hésite pas à ouvrir les valves avec les légendes, avec d'autres compagnies. Et là, voilà, peut-être repartir sur Final Battle parce qu'elle a énormément soutenu la Ring of Honor sur ce Final Battle. Il y a beaucoup de... Déjà, elle a envoyé Jay Lethal parce que c'est maintenant un catcheur exclusif de la EW, hein, Jay Lethal. Elle l'a envoyé pour remplacer Bandido dans le main event contre Jonathan Gresham. Donc en plus, il y avait ce côté, ces deux anciens coéquipiers. Donc ça rajoutait d'autant plus de symbolique là aussi. Mais elle a envoyé FTR parce que les Briscoes sont redevenus champions pour la 12e fois champion par équipe de la Ring of Honor. Et ils ont défié quiconque, ils sont prêts à défendre ses ceintures même en dehors de la Ring of Honor. Et c'est FTR qui a répondu. Et puis il y a eu beaucoup de messages de soutien. Bryan Danielson, CM Punk, Hangman Page, Adam Cole. Il y en a aussi de Impact, il y a Eddie Edwards, il y a Jimmy Jacobs aussi. Enfin voilà, ils sont beaucoup à avoir soutenu la Ring of Honor. Et je trouve ça beau d'au moins saluer cet héritage-là. Et le fait que sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu de WWE, quoi.
Eh ben, va falloir que je regarde ça. On va, je pense, doucement voir conclure, tout court, hein, vu ce qu'on a pu dire. On va amorcer effectivement une petite ouverture. Moi, ça me permet aussi de dire merci à Félix. C'est pas la première fois, mais en tout cas d'amorcer des émissions assez fortes qui mettent le pied à l'étrier. Hein. C'est aussi ce qui fait la force de l'émission. C'est que parmi nous, il y en a qui découvrent des pans sur des sujets par les membres même de l'équipe. Et on espère que ça vous donnera vous aussi envie. Bah, je te laisse faire l'ouverture et peut-être même enchaîner après derrière avec les au revoir.
Oui, comme ouverture, voilà, la Ring of Honor, qu'est-ce qui va en devenir? Parce que bon, peut-être qu'en avril elle va reprendre sur le modèle qu'on a décrit tout à l'heure, mais peut-être pas. Mais elle a de quoi toujours faire des petits. Donc on a parlé de Terminus par exemple, donc la nouvelle promotion de son champion Jonathan Gresham. Jonathan Gresham qui a déclaré hier soir donc à Final Battle qu'il avait comme objectif de défendre son titre contre deux anciens champions du monde de la Ring of Honor. Donc tout le monde pense à CM Punk et Bryan Danielson. Après, à voir si c'est eux, mais bon, voilà. Pour moi, il y a le flambeau de la Game Changer Wrestling qui a repris ce titre de promotion reine du catch indépendant américain où vraiment c'est elle qui met l'ambiance, c'est elle qui marque le ton avec des shows spectaculaires où il se passe vraiment des choses surprenantes. C'est pas du catch très technique, il y a un mélange un peu de tout et qui fédère vraiment tous ces fans là du catch indépendant, mais aussi tous ces catcheurs là comme l'a fait la Ring of Honor en son temps. Et puis il y a le côté un peu miroir, parce que non seulement déjà, voilà, je l'avais noté, aux commentaires depuis peu, il y a Dave Prezak et Lenny Leonard, donc c'était les commentateurs historiques de la Ring of Honor qui sont aux commentaires de la Game Changer Wrestling, donc ne serait-ce qu'à l'oreille, ça parle. Mais en plus, en janvier, elle va investir dans le Hammerstein Ballroom, donc cette fameuse salle emblématique de la ECW puis de la Ring of Honor, donc c'est vraiment... Voilà, on reprend le fief historique de cette promotion-là pour notre compte. Et puis, du côté du propriétaire de la ROH, donc la SBG, il y a eu l'annonce du rachat d'une autre promotion de catch, qui est une promotion féminine, qui s'appelle Women of Wrestling, qui a été fondée par David McLean. C'est celui qui avait fondé GLOW, enfin, la promotion qui avait donné la série GLOW. Et donc, elle devrait reprendre sur les écrans en automne 2022, notamment avec AJ Lee au commentaire. Enfin, April Mendes. Donc voilà, peut-être qu'il y aura du co-branding, de la co-promotion entre cette Women of Wrestling et puis peut-être la Ring of Honor si elle redémarre. Voilà. En tout cas, on souhaite que ça se passe ainsi. La Ring of Honor, non, elle n'est pas morte. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des catcheurs et des souvenirs de son existence. Et puis on espère peut-être que redécouvrir une nouvelle Ring of Honor en avril 2022. Voilà, c'était tout pour ce morceau d'histoire avec vous et avec toi, Mehdi. Nous, on te suit. Voilà, je fais le billet de fin, tu vois. Hein, nous, on te suit sur Twitter, mais partout sur Twitch avec @mlemehdi, il me semble. Tu fais tout et n'importe quoi, mais surtout des belles choses. Vous suivez évidemment le Catchacast sur @catchacast sur Twitter, @catchacastdzp sur Facebook. N'oubliez pas que on a une chaîne YouTube, il faut s'abonner et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors on est modeste, d'accord, mais au moins ça monte, c'est toujours positif. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur tout ce qui existe pour écouter des podcasts: Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube évidemment. Quant à moi, donc c'est @phelyks_g sur Twitter.
Qui est collé sur le billet.
Exactement. Voilà, quant à moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette émission sur la Ring of Honor. Alors, c'était très dense, on vous l'accorde, mais c'est le passionné qui parle. Et encore, je me suis fait violence pour synthétiser au mieux. Je sais pas pour toi, Mehdi.
Non, mais je l'ai déjà dit avant, hein, sinon après ça va faire trop, on s'auto-congratule. Pour la promo, c'est déjà fait, donc c'est parfait. Et vous dire, voilà, ça fait un petit moment qu'on tease, mais 2022 sera l'année non plus seulement du contenu audio, mais du contenu vidéo. Donc on vous en reparle dès que c'est carré et mis en place, que tout est ouvert, la technique, l'organisation, même les lieux pour tourner ça décemment. On vous en reparlera quand ce sera concret, mais sachez-le, voilà, c'est prêt, il n'y a aucune excuse a priori pour que 2022 ça ne se fasse pas, et vous serez le premier informé. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt. Ciao.
Ciao.